nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, bienvenue dans le Cercle des médiévistes. Le Cercle des médiévistes, c'est une nouvelle rubrique sur Canal Académie qui vous invitera régulièrement à rencontrer les historiens spécialistes du Moyen-Âge, membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, à tour de rôle et en fonction des goûts de chacun, pour qu'il évoque une exposition, un livre, un colloque, bref, tout événement digne d'attention relatif au Moyen-Âge. Et pour cette toute première émission du Cercle des médiévistes, c'est l'académicien Philippe Contamine de l'Académie des inscriptions et belles-lettres que vous allez entendre. Il a choisi d'évoquer une belle exposition, La demeure médiévale à Paris, qui se tient aux Archives nationales en cet automne 2012. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Je vous laisse la parole.
Merci. Malgré quelques tentatives plus anciennes, y compris avant la Révolution, c'est essentiellement à partir du milieu du XIXe que des historiens de l'art, des archéologues, des architectes du patrimoine, comme on dirait aujourd'hui, commencèrent à s'intéresser de près au passé médiéval du bâti parisien. On peut ici parler de l'influence directe ou indirecte de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, et de Viollet-le-Duc. Le point d'aboutissement de cette démarche correspond à l'impressionnante publication de l'ouvrage en 6 volumes, 1879-1897, sous le titre « Topographie historique du Vieux Paris », dont les deux principaux auteurs, il y en a d'autres, sont Alphonse Berty et Henri Legrand. Encore aujourd'hui, ces 6 volumes font référence. Mais ni les investigations, ni les interventions ne s'arrêtèrent là. Il n'est que de songer au rôle, depuis plus d'un siècle, de la Commission du Vieux Paris, toujours très active. Signalons aussi la création, en 1978, par notre confrère Jean Favier, alors directeur général des Archives de France, du Centre de topographie parisienne. L'exposition présentée aux Archives nationales, dans les salles du premier étage de l'hôtel de Soubise, 60 rue des Francs-Bourgeois, sous le titre « La demeure médiévale à Paris » se propose d'offrir au public le résultat le plus récent de recherches, certes menées de longue date, depuis le milieu du XIXe, mais qui ne cessent de se poursuivre. Ces dernières années, je dirais même ces derniers mois, n'ont-ils pas été marqués par de véritables découvertes archéologiques, ainsi quant aux caves de l'hôtel de Clisson, édifié au XIVe siècle pour le fameux connétable Olivier de Clisson, un hôtel dont les vestiges, les rares vestiges, sont depuis le XVIIIe siècle incorporés précisément à l'hôtel de Soubise. Sous l'autorité d'Agnès Magnin, directrice des Archives nationales, les deux commissaires de l'exposition, Étienne Hamon, professeur d'histoire de l'art à l'Université de Picardie, et Valentine Weiss, conservateur du patrimoine, responsable du Centre de topographie historique de Paris aux Archives nationales, ont uni leurs talents, leurs compétences, leurs passions pour réaliser cette exposition à caractère thématique qui se veut à la fois ambitieuse et accessible au plus grand nombre. Bien que ces limites chronologiques aillent en principe du début du XIIIe au début du XVIe siècle, de Philippe Auguste à Louis XII, à François Ier, en fait l'exposition, par la force des choses, en raison des documents disponibles, est amené à privilégier la période qui commence avec Charles V et avec la construction de sa fameuse enceinte sur la rive droite, laquelle a eu comme résultat de porter à quelque 450 hectares la superficie parisienne protégée. Telle est la ville close, dont les remparts, les puissants remparts, étaient étayés, je le rappelle, à l'ouest par la forteresse du Louvre et à l'est par la Bastille. Cela étant, il faut admettre que, bien que trop peu documenté, il y eut un puissant effort de construction, d'urbanisation, de densification au cours du long XIIIe siècle, de Philippe Auguste à Philippe le Bel. Des espaces ruraux furent alors lotis, des chemins devinrent des rues, avec des maisons jointives. Quand même, le résultat, il ne faut pas rêver. En 1292, nous avons les comptes de la taille, la municipalité parisienne était en mesure de lever l'impôt sur seulement 15 000 contribuables recensés rue par rue. 15 000 contribuables à 5 personnes par contribuable, ça ne fait pas 100 000 habitants. Bon, enfin là, il y a une discussion entre historiens, entre érudits, je passe. Quoi qu'il en soit, ni la peste noire, 1348, ni 10 ans plus tard, les troubles sociaux et politiques du temps d'Étienne Marcel, ne firent chuter la population du début du XIVe siècle, peut-être même au contraire. On aurait ainsi atteint un apogée démographique, un apogée économique, artistique vers 1400, par le biais de l'argent public qui affluait. Toutes les richesses du royaume venaient se concentrer à Paris, et les provinciaux n'étaient pas contents. Et puis, les circonstances, bien connues, entraînèrent un vrai collapsus à partir de 1415-1420, suivi d'une reprise lente et régulière à compter du milieu du XVe siècle. Un point est à relever, pendant ces trois siècles, XIIIe, XIVe, XVe siècle, Paris ne subit aucun siège dévastateur, et il n'y eut aucun grand incendie. C'est assez curieux, du reste, parce que d'autres villes, comme vous le savez, Bourges, Londres, naturellement, ont connu, à cette époque-là, avec ces maisons en bois, des incendies extrêmement destructeurs. Ce n'est pas le cas de Paris. Il est probable, par conséquent, que les Parisiens surveillaient les feux, il y en avait nécessairement, de très près, et arrivaient à les éteindre. De façon un peu arbitraire, il est parlé de 10 000 maisons, chiffre mythique, 10 000 maisons individuelles vers 1500. Mais alors, en moyenne, combien d'habitants par maison? C'est ce qu'il est impossible à déterminer. 10 000 maisons, 5 habitants par maison, ça fait que 50 000. Or, souvent, on dit que Paris, vers 1500, comptait 250 000 habitants. Donc, on est loin du compte. Donc, il y a une énigme que je me permets simplement de souligner. Ces maisons représentaient un investissement, leurs propriétaires pouvaient y vivre, avec les siens, avec ses serviteurs, ses servantes, mais il y avait aussi des immeubles, partiellement ou entièrement de rapport, abritant des locataires, difficiles à saisir dans la documentation. Un très grand nombre de ces maisons étaient chargées de rentes. Ces rentes constituaient un moyen privilégié de placer ses capitaux. Encore fallait-il qu'il y ait quelqu'un sur place susceptible de payer. Or, précisément, entre 1420 et 1450, beaucoup de maisons furent laissées à l'abandon, se transformèrent en ruines, en masures, selon le terme de l'époque, ce qui provoqua du même coup la ruine des rentiers. En revanche, convenablement entretenue, une maison à pignon, avec façade plutôt étroite sur la rue, à pans de bois et toit de tuiles plates, comportant un cellier en sous-sol, un ouvroir, un étal ou une échoppe au rez-de-chaussée, un ou deux étages desservis par une vis en bois, un escalier en bois, une vis comme on disait à l'époque, plus un grand grenier, pouvait durer longtemps. Je n'ai pas de chiffre à avancer, mais des dizaines d'années. Un chiffre est donné, peut-être y avait-il, encadré par des organismes professionnels bien connus, les fameux métiers, métiers réglés, métiers jurés, et surveillé par les voyers, car il y avait quand même un début d'urbanisme, 1 000 000 de travailleurs du bâtiment œuvrant par petites équipes. Maçons, charpentiers, couvreurs et accessoirement tailleurs de pierre, serruriers, verriers, menuisiers. Le XVe siècle, le XVIe siècle, c'est l'âge d'or de la menuiserie pour le décor intérieur. Une demi-douzaine de compagnons pouvaient ainsi construire en quelques semaines une maison de ce genre. Bien sûr, pour ce type de construction ordinaire, il n'était nul besoin, il n'était pas question d'architecte. Un mode privilégié de connaissance de ces maisons, de leur implantation dans les parcelles, vient du fait que le sol parisien, et cela est très bien montré dans l'exposition, était partagé en plusieurs censives, relevant de seigneuries, le plus souvent ecclésiastiques, Saint-Germain-des-Prés, l'évêché, Saint-Martin-des-Champs, etc. Or, surtout à partir du XVe siècle, des plans figurés furent réalisés pour telle ou telle de ces censives ou parties de censives où se voit nettement l'alignement des maisons et le contour des parcelles. Mais l'étude de la maison individuelle, de la maison ordinaire, du bourgeois de Paris, n'est pas le seul objet de l'exposition. En effet, le propre de Paris capitale, politique, administrative, religieuse, culturelle, était de comprendre en grand nombre, non seulement des églises et des chapelles, des monastères, des couvents, des collèges universitaires, des hospices d'Hôtel-Dieu, mais également des hôtels appartenant à des princes du sang, à des grands seigneurs, à l'élite des officiers royaux, à des évêques, à des abbés, hôtels répartis sur la rive gauche comme sur la rive droite, et même dans la cité. On voit très bien, par exemple, comment l'émergence sur la rive droite de l'hôtel Saint-Paul, sous Charles V et Charles VI, eut comme résultat la construction d'hôtels par les grands, et c'est ici que l'on retrouve l'hôtel de Clisson. D'où le titre de l'exposition, ce n'est pas la maison médiévale, c'est la demeure médiévale, c'est plus large. J'ajoute que chaque visiteur se voit remettre un très utile livret qui permet de parcourir l'exposition et d'identifier clairement les quelques 150 numéros, 150 éléments qu'elle réunit. On y trouve aussi, à la fin, la transcription de textes significatifs et la liste des principales demeures médiévales ou de traditions médiévales jusqu'au XVIIe siècle, encore visibles à Paris, de la tour Jean sans Peur à l'hôtel de Cluny, de la maison d'Aumône de Nicolas Flamel à la tourelle en encorbellement de l'hôtel Hérouée, des caves de l'hôtel de Clisson aux caves de la maison possédée à Paris par l'abbaye cistercienne d'Ourscan. On peut estimer que ces 30 témoins, c'est pas beaucoup évidemment, ce n'est pas beaucoup. Mais on aurait tort d'incriminer unilatéralement le vandalisme du seul XIXe siècle. En réalité, les destructions les plus nombreuses du bâti médiéval ordinaire et même de ses demeures, de ses hôtels, datent de l'époque classique et du remplacement par des maisons nouveau style, en moellons, plâtre et pierre de taille, des maisons médiévales dites à colombage. Est aussi en vente, je le signale, publié par les éditions d'Ars Sommogies, un très bel ouvrage portant le même titre que l'exposition « La demeure médiévale à Paris », un ouvrage qui réunit une trentaine de chapitres rédigés par les meilleurs spécialistes qui font le point sur le sujet, vous l'avez compris, un grand sujet d'histoire, c'est le mérite à la fois du livre et de l'exposition d'en démêler tous les fils.
Merci Monsieur Contamine de nous avoir éclairé sur cette belle exposition et si vous souhaitez partager l'enthousiasme de Philippe Contamine, eh bien rendez-vous à cette exposition « La demeure médiévale à Paris » qui se tient aux Archives nationales, Hôtel de Soubise, 60 rue des Francs-Bourgeois à Paris 3e, vous l'avez dit, du 17 octobre au 14 janvier 2013, tous les jours sauf le mardi et les jours fériés. Merci beaucoup monsieur et à bientôt pour une autre rencontre du Cercle des médiévistes.
À bientôt.